France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment décider dans un monde à l'ambiance incertaine ? Celui qui attend que tout danger soit écarté pour mettre les voiles ne prendra jamais la mer, disait l'historien Thomas Fuller il y a presque 4 siècles, et sans doute avec juste raison. Mais nous n'en sommes plus vraiment là. Au terme d'une longue histoire, nous sommes devenus hypersensibles aux risques, voire quasiment allergiques à ce qu'ils incarnent. La notion même de risque présuppose d'avoir identifié la probabilité de dommage qui soit par essence négatif. Elle est apparue dans l'esprit collectif lors de l'émergence de la société industrielle. La loi de 1898 qui instaurait la responsabilité sans faute à propos des accidents du travail a en quelque sorte officialisé l'entrée de notre monde dans l'ère du risque. Mais depuis lors, la sensibilité au risque a éminemment varié, au point de carrément s'inverser. Longtemps perçu comme le prix à payer pour faire advenir le mieux, autrement dit pour progresser, le risque est finalement devenu le symptôme d'un dérèglement général à corriger, voire comme l'annonce tangible des apocalypses futures. Dans un tel contexte, comment s'y prendre pour prendre des décisions, notamment dans les domaines scientifiques et technologiques ? Comment accepter le risque sans se précipiter vers le danger ? Et comment naviguer dans l'incertain sans se laisser tromper par des chimères ? Pour pouvoir lui demander de répondre à ces questions qui sont délicates, j'ai invité Catherine Van Hoffelen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste et vous venez de publier un livre qui répond aux questions que je pose. Il s'intitule « Risquer la prudence » avec comme sous-titre « Une pratique de la sagesse antique ». Et il a été publié par Gallimard il y a quelques semaines. Et dans ce livre, dont je précise qu'il est magnifiquement écrit, vous racontez de façon très pudique ce qui vous a amené à vous intéresser à la question de la décision. Vous dites que pendant votre adolescence, donc il n'y a pas si longtemps, vous avez vécu dans une sorte d'errance métaphysique, de flottement existentiel, que vous avez souffert d'une espèce d'insuffisance centrale de l'âme, pour reprendre une expression de Nicolas Bouvier. Et tout d'un coup, vous avez découvert une notion grecque, la phronesis, et vous avez été sauvé.
Alors oui, en fait, je n'avais pas de disposition intérieure fixée. Et donc j'étais aux prises avec cette incertitude, ce doute existentiel, enfin que je pense beaucoup de jeunes éprouvent. Ils se sentent comme taisés dans le labyrinthe, sans fil d'Ariane. Et l'homme doit inventer son existence. Et c'est toujours une bataille. Alors, comment savoir si une décision que l'on prend est la bonne ? Je me sentais un peu comme Rimbaud qui disait « à chaque être, plusieurs autres vies me semblaient dues ». Je ne savais pas comment, qui je voulais être, qui je voulais devenir. Et lorsque j'ai découvert ce terme de phronesis, ça a été pour moi comme un satori, comme un éblouissement de la conscience, puisque soudain j'avais une boussole, j'avais un sherpa, j'avais une étoile du berger pour me guider dans les décisions de l'existence.
Alors vous dites que ce mot phronesis, il est indéfinissable, et pourtant vous consacrez plusieurs dizaines de pages à le définir. Alors comment sortir de ce paradoxe ?
Oui, le terme de phronesis, c'est un terme grec qu'on a traduit par prudence de façon très maladroite, parce que dans le mot prudence, on entend la précaution, la timidité, l'inaction, la pusillanimité, et on entend en fait une eau tiède. Hein, on entend une sotte vertu, comme disait Voltaire. Mais en fait, la prudence grecque, elle est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que c'est le flair dans l'action, c'est une forme de sagacité, de clairvoyance. C'est la capacité à discerner le bon chemin à prendre dans la forêt du réel. Hein, pour le dire vite, mais c'est vrai que c'est un concept extrêmement subtil, chatoyant, qu'il est difficile de définir. Aristote tente de le faire, mais pourquoi est-ce qu'elle est difficile à définir ? C'est parce qu'elle est c'est le chien de berger de toutes les vertus. On dit que c'est la voiturière des vertus. Elle en contient plein et elle serait comme une table de Mendeleïev avec tout un tas de précipités chimiques.
Mais c'est aussi parce que sa mise en scène dépend du contexte.
Alors oui,
c'est pas une recette.
Là, voilà, il n'y a pas de mode d'emploi type Ikea dans la Phronesis, parce que
c'est pas un meuble.
C'est-à-dire que c'est toujours un savoir qui est pauvre, flou, insaisissable. Pourquoi ? Eh bien, parce que les ingrédients du réel ne cessent de changer et qu'il n'y a rien de fixe dans le monde. C'est pour ça que la Phronesis n'est pas une science. Nous dit Aristote, ce n'est pas une épistémée, parce que l'épistémée s'occupe des lois fixes, enfin des étoiles fixes, pardon. Ce sont les vérités immuables, tandis que la Phronesis s'occupe du monde des hommes, qui est un monde varié, coloré, changeant. C'est le torrent mobile des circonstances. Et voilà la matière de la Phronesis, c'est la fortune. La fortune qui change et qu'il s'agit de non pas de domestiquer, mais avec laquelle il faut composer.
Et vous citez Aristote expliquant que la phronésie, c'est pas la même chose que la sagesse. Aristote écrit « Anaxagore et Thalès et tous ceux qui leur ressemblent possèdent la sagesse, mais non pas la phronésis, car ils ignorent des biens qui leur seraient profitables. » Et vous continuez en disant « Un prix Nobel peut posséder un savoir admirable sans que ce savoir soit nécessairement utile au sens pratique du terme, mu qu'il est avant toute chose par le désir de vérité et de compréhension. »
Exactement. La phronésis n'est pas plus une science qu'elle n'est une sagesse, au sens où les Grecs l'entendaient, la Sophia qui vise une compréhension générale du monde et qui vit dans le monde des idées avec une majuscule. La phronésis s'occupe du concret, elle est une sagesse pratique, les Anglais la traduisent comme ça d'ailleurs, et ça montre bien ce qu'elle est, elle est orientée vers l'action. Il y a le degré de la dimension d'efficacité qui est centrale dans la phronésis.
Donc décider, c'est toujours d'une certaine façon agir.
Mais disons que, en fait, la phronésie, c'est bien penser, bien dire, il y a l'éloquence, bien sûr, qui est très importante, et bien agir. Donc c'est un principe de décision et d'action. Les deux vont ensemble. Il s'agit de bien juger, mais d'agir correctement.
Mais d'ailleurs, Catherine Van Hoffelen, vous consacrez un chapitre à l'éloquence. Pourquoi c'est si important de bien parler quand il s'agit de décider ?
Eh bien, parce que le verbe est le sésame de l'action, et que pour agir, pour entraîner les autres avec soi, il faut toujours convaincre, enfin persuader, je veux dire, persuader, et on ne persuade pas avec des arguments, qui sont des chiffres, des statistiques. Il faut emporter l'adhésion avec des figures de style, avec des fleurs charmantes. Il ne s'agit pas de dire la vérité, il s'agit de vraiment d'emporter l'adhésion. L'objectif n'est pas de convaincre, de dire la vérité, mais vraiment d'emporter l'adhésion.
Mais ça veut dire qu'on peut presque mentir comme Ulysse l'a fait parfois, dans sa petite expédition.
Alors, Ulysse, c'est un emblème de phronésis, de prudence grecque, parce que on l'appelle le héros aux mille ruses. Et en fait, il triomphe toujours des embûches et des obstacles grâce à l'intelligence de ses manœuvres. Et c'est vrai qu'à la racine de la phronésis, il y a la ruse, qui fait que Ulysse parfois ment, triche, met des masques, se déguise, etc. Mais c'est pour mieux parvenir à ses objectifs.
Donc si l'objectif est louable, on peut mentir.
Alors, justement, là, vous mettez le doigt sur une dimension centrale de la phronésis, qui ne se réduit pas à une habileté. Ce n'est pas une panurgie, ce n'est pas juste la faculté d'atteindre ses objectifs. Encore faut-il que ces objectifs soient nobles. Et donc, il y a bien une dimension éthique, une dimension morale à la phronésis, parce que il faut que les buts soient louables, honorables. Et en l'occurrence, il s'agit de viser le bien pour soi-même et pour les siens. Voilà le but de la phronésis. Effectivement, Ulysse, il va droit par des chemins tordus. Mais le but est noble en ce sens qu'il veut retrouver Ithaque, cultiver sa terre, retrouver sa femme, écarter les prétendants et donc remettre en ordre le destin, ce qui a été dérangé.
Alors vous parlez des phronimos. Les phronimos, ce sont des personnages historiques ou mythiques qui incarnent la phronésis. Et parmi eux, il y a le général de Gaulle. Et alors, vous le citez, il y a beaucoup de citations dans votre livre, vous citez le général de Gaulle disant Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, parce que en fait, l'Afronésis, vous l'avez dit, peut difficilement être définie, mais on peut la reconnaître. On peut la reconnaître, nous dit Aristote, à l'aune d'exemples. Elle s'incarne chez le prudent, qui est le phronimos. Et en fait, le prudent suprême, c'est celui qui gouverne, qui tient le gouvernail de l'État ou de la cité. Hein, et il amène, si vous voulez, le paquebot de l'État à bon port. Nous-mêmes gouvernons la barque de notre propre vie en essayant de pas trop nous tromper de choix dans les décisions de carrière.
Donc c'est celui qui gouverne plus que soi-même.
Mais alors, le phronimos exemplaire, c'est effectivement l'homme politique, c'est la vertu propre du prince, nous dit saint Thomas d'Aquin. Et c'est vrai que cette prudence régnative, c'est là qu'elle brille à son plus haut degré. De Gaulle est un exemple superbe. Aristote donne un autre exemple, qui est Périclès, qui est un exemple du grand homme d'État par excellence, puisque Périclès, c'est celui qui a donné son nom au siècle d'or d'Athènes, qui est cette période brillante de l'histoire, qui a vu émerger la démocratie, la rhétorique, le théâtre avec la tragédie, la philosophie, etc. Donc, et c'est un moment clé dont l'artisan est Périclès. Voilà. Et à sa suite, eh bien, on pourrait dire que De Gaulle est un exemple de phronimos parce que il a su apprivoiser la fortune, ses coups du sort. Mais Churchill en est un autre. Hein, Roosevelt aux États-Unis en est un autre. Enfin, c'est une panoplie où il y a beaucoup de seigneurs, on va dire.
Alors, que veut dire cette phrase de De Gaulle ? Au fond des victoires d'Alexandre, on trouve toujours Aristote.
Eh bien, parce que Aristote propose une philosophie qui est humaniste, en fait, et elle s'oppose à celle de Platon. Hein, on a souvent opposé les deux, mais il est vrai que les deux philosophes ont initié une lignée qui est, pour Platon, la lignée idéaliste, hein, qui vit dans le monde des idées et dans laquelle on peut retrouver Kant, on peut retrouver Descartes, on peut retrouver Ancionas. Et Aristote, lui, il propose une sagesse à hauteur d'homme. Hein, et on va retrouver Montaigne, on va retrouver Machiavel, on va retrouver Bergson, enfin ces philosophes qui ont davantage pris en compte l'intuition, le flair, l'instinct, ces dimensions-là qui sont proprement humaines.
Mais dans la liste que vous avez citée là rapidement, il n'y a pas Napoléon.
Oui, alors...
Parce que vous dites, on n'est pas tous des personnalités de pouvoir ou des princes, mais vous dites dans votre livre que nous sommes tous, dans notre vie quotidienne, des Napoléons du minuscule. Est-ce que c'est péjoratif ? Est-ce que c'est un compliment ?
Non, parce que en fait, nous devons aussi nous gouverner nous-mêmes. Hein, nous devons trouver une boussole qui est la raison d'état de nous-mêmes. Et quelque part, il y avait un standard juridique qui était le bon père de famille, qui en fait emblématise ce type excellent de la phronésis, du phronimos. Nous avons toujours à notre charge peut-être une entreprise, peut-être une famille, une maison sur laquelle nous gouvernons à notre échelle, et il s'agit là encore de faire les bons choix.
Mais alors, est-ce que c'est péjoratif ou pas ? Napoléon. Pourquoi Napoléon ?
Parce que...
Qu'est-ce qui rapproche la figure de Napoléon de celle du bon père de famille qui s'occupe, qui gouverne sa maisonnée ? C'est pas vraiment ce qu'il a fait.
En fait, Napoléon a quand même été l'instigateur d'une certaine grandeur française. Et disons que le but du politique, il est toujours double. Il y a toujours ce double défi que Cicéron définit, c'est-à-dire conserver et accroître. Préserver l'état de la ruine, veiller aux remparts, mais aussi construire, innover, peut-être accroître les dimensions de l'Empire, construire une citadelle plus haute, plus fière. Et Napoléon, en ce sens, eh bien, il a réussi à redonner une espèce de récit d'unité à la France avec le verbe, aussi bien qu'avec les bonnes décisions, jusqu'à, évidemment, le fracas.
Alors, on attribue une phrase à Emmanuel Kant, elle revient souvent, mais je dois reconnaître que j'ai pas réussi à trouver la référence. L'intelligence d'un individu, aurait-il dit, se mesure à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Alors, c'est plutôt une définition de la confiance en soi, j'imagine. Mais quand on est dans un monde incertain, est-ce qu'il devient plus facile de décider ? ou au contraire plus difficile?
Il me semble qu'il est difficile de décider dans un monde incertain, et c'est vrai que le brouillard nous entoure, on a voulu l'oublier, mais Kundera le rappelle, hein, il dit que l'homme est celui qui s'avance dans le brouillard, et c'est vrai que nous ne savons jamais lorsque nous poussons la porte d'une décision, si celle-ci est bonne ou mauvaise à l'avance. Mais aujourd'hui, nous avons refusé cette incertitude, parce qu'il y a eu finalement la promesse d'une science, d'une technologie, si je ne confonds pas les deux, mais de décrypter l'univers, le cosmos, le mystère de la vie, la métaphysique de la mort. Et donc nous avons voulu finalement faire rendre gorge au dernier mystère.
Comme si on avait toutes les clés pour décider.
C'est ça, on voudrait avoir toutes les cartes en main pour décider. Sauf que, en fait, il y a toujours une part d'incertitude. Il s'agit de savoir fréquenter cette incertitude, parce que c'est là qu'est le creuset de la liberté. Et si tout était connu, si tout était su, eh bien, nous ne serions plus libres. Hein, la liberté, en fait, l'incertitude est la condition même de la liberté. Mais en fait, c'est toujours une part sauvage dans le monde qui demeure. C'est-à-dire que, par exemple, le marin devant la mer, eh bien, la mer, c'est cet emblème de l'incertain, du mouvant, de l'immaîtrisable, du sauvage. Et le marin ne peut pas espérer la domestiquer complètement. Mais il peut espérer déployer ses facultés pour arriver à naviguer par tous les temps. Il échappe à ses abîmes, il compose avec elle. Et de la même manière, le cavalier sur son cheval, eh bien, il est aux prises avec une part de sauvagerie quelque part. Et le politique devant la géopolitique mondiale est de même confronté à une espèce d'emblème d'incertain. Nous avons voulu trouver des outils pour nous permettre d'avoir quand même un levier d'Archimède sur une prise magique sur ses forces sauvages. Et c'est le mythe que je rapporte, qui est en fait décrit par Pindare, hein, c'est-à-dire que il y a Bellérophon qui rêve de dompter Pégase qui est ce cheval ailé qui parcourt le ciel et les nuages, parce qu'il est le porte-foudre et le porte-tonnerre de Zeus, et Bellérophon n'arrive pas à dompter Pégase, donc Athéna, déesse de la prudence, déesse de la phronésis, lui donne un mort. Et grâce à ce mort, eh bien Bellérophon arrive à dompter Pégase. Donc il y a l'outil toujours qui vient brider la part sauvage et donner une prise, un levier. Et alors nous avons voulu domestiquer l'incertitude. Comment? Eh bien avec le calcul, la statistique, la calculette finalement.
Avec l'idée que du coup, si on échoue, c'est qu'on est responsable de l'échec. Vous avez une phrase qui dit un peu cela, si je l'ai bien comprise. Dans les savanes de la grande amazonisation du monde, chacun devrait pouvoir s'emparer du succès, voire du bonheur. Donc si c'est raté, c'est de la faute de celui qui a mal tenté.
Oui, il est très difficile d'assumer la charge de son erreur. C'est finalement ce qu'il y a de plus lourd à porter. On voudrait bien avoir un bouc émissaire qui serait peut-être un dieu, peut-être une société, etc. On le cherche parfois, ce bouc émissaire. Mais en fait, nous ne pouvons imputer nos échecs qu'à nous-mêmes.
Vous dites, c'est presque la définition, décider c'est faire un choix. Mais vous vous rappelez en même temps que le mot grec pour dire choix, c'est aérésis, qui veut dire hérésie. Et vous citez Kierkegaard, l'instant de la décision est une folie. Ça veut dire que décider, c'est toujours raisonnable parce qu'il faut le faire, mais ça n'est jamais raisonnable non plus.
Mais parce qu'il y a toujours une part d'incertitude, c'est toujours un coup de poker, on ne sait jamais si c'est le bon choix. Et c'est pour ça que César a cette formule, allez à Jacta Est, il lance les dés sont jetés. Et en fait, lorsqu'on s'avance après avoir décidé, hein, après avoir sous-pesé quand même les pour et les contre, c'est-à-dire qu'on agit mais en connaissance de cause. Hein, la phronésie, ce n'est pas simplement agir de façon téméraire. Il y a toujours le calcul, la préparation, la délibération, qui vient au préalable, mais effectivement, il s'agit ensuite de s'avancer dans la nuit. Et d'ailleurs, la chouette d'Athéna, qui est son symbole, eh bien, elle entrevoit dans la nuit noire et profonde, mais elle ne voit pas parfaitement. C'est-à-dire que le phronimos, c'est un clairvoyant. D'ailleurs, elle prend son envol au crépuscule, hein, une fois que tout a été bien considéré. C'est à ce moment-là qu'on agit, mais ensuite, elle y voit un petit peu. Voilà.
Alors, Catherine Van Oefelen, vous citez, vous venez de parler du phronimos, là, enfin, un exemple de phronimos, c'est-à-dire de personnalité, de personnage qui incarne la phronésis, et vous dites le phronimos va droit par des chemins tortueux. C'est un peu ce que vous venez d'expliquer. Et je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à la lumière en relativité générale. La théorie d'Einstein de la gravitation, elle dit finalement que les corps, qu'ils soient massifs ou non, en fait, ils vont en ligne droite. Mais comme l'espace dans lequel ils évoluent est courbé, leur trajectoire est curviligne. Parce que quand on va en ligne droite dans un espace courbe, ben on va pas en ligne droite.
Oui.
Est-ce que c'est l'idée qu'il y a comme ça une sorte de guide incertain qui fait que même si on est déterminé, on a une trajectoire qui est pas si nette que cela?
Mais forcément, en fait, hein, et c'est pour ça que Ulysse est un bon exemple, parce que il réunit la figure de Machiavel et celle de Hamlet, dans ce sens que c'est pas vraiment une belle âme idéaliste, mais c'est pas non plus un cynique manipulateur. On ne trouve pas, par exemple, la phronésis chez par exemple, un trader cynique à la City, un Madoff, par exemple, n'est pas un phronimos, pas plus qu'une Madame de Merteuil ou un Valmont dans Les Liaisons Dangereuses, et ni plus qu'un gangster dans un film de Al Capone. Ces gens-là sont très habiles, ils souscrivent aux principes de résultat, mais encore une fois, les buts ne sont pas nobles. Donc en fait, c'est vrai qu'un homme politique pourra parfois se soumettre à des accommodements raisonnables, parfois fera des compromissions, parfois retournera sa veste. Mais si la finalité est bonne, eh bien, ça l'excusera.
Mais on peut pas le savoir à l'avance.
Mais non, parce que toujours la phronésie, est une affaire au long cours. Et d'ailleurs, vous connaissez la phrase du premier ministre chinois Zhou Enlai dans les années 1970.
Je suis pas sûr, mais vous allez nous la rappeler.
Dans les années 1970, on lui demandait quel bilan tirez-vous de la Révolution française, et il avait dit il est encore trop tôt pour se prononcer. C'est vrai que les conséquences sont à voir au long cours.
Mais à vous écouter, Catherine Van Oefelen, on a l'impression que la phronésis, disons, appelons-la l'art de la prudence ou l'art du bon choix, c'est pas très loin du bon sens, du simple bon sens.
Alors oui, certains l'ont traduite par sagacité. On peut la traduire par bon sens, mais le bon sens est une traduction encore trop parcellaire parce que il n'y a par exemple pas l'éloquence. Il n'y a pas non plus, enfin, disons que on y trouverait peut-être ce dialogue qui est fondamental dans la phronésis, qui est ce dialogue entre le calcul et le flair, entre la raison la plus logique et l'instinct le plus archaïque, entre finalement le cortex et le cœur et le corps. Hein. C'est finalement le rassemblement sous une même bannière de toutes nos facultés humaines. Et ça rassemble l'esprit intuitif, scientifique et affectif.
Le cerveau, le cœur et le corps.
Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on décide bien, en fait.
Alors, on vous rappelait que on a longtemps considéré que l'émotion était ennemie de la raison. Et vous citez le livre d'Antonio Damasio, L'erreur de Descartes, dans lequel il montre que les émotions ne sont pas produites par le corps seul, ni par le cerveau seul, mais dérivent de la traduction plus ou moins fidèle que le second fait de ce que le premier éprouve. Elles ne sont donc pas des éléments perturbateurs qui pénétrent de façon inopportune dans la tour d'ivoire de la raison, mais font au contraire partie des rouages de la raison. Les émotions font partie des rouages de la raison. En d'autres termes, la capacité de ressentir et d'exprimer des émotions participe directement à la mise en œuvre des comportements rationnels. Est-ce que c'est une sorte de réhabilitation de l'émotion que vous suggérez ?
Oui, alors on a une vision très noire des émotions. On voit les émotions comme la porte ouverte au chaos. On les voit comme le contraire de la raison, hein, comme elles seraient comme l'eau et l'huile. Et il y aurait une dichotomie comme ça dans l'homme. Et ça nous vient de Platon, hein, qui les voyait comme ça. Mais en fait, Antonio Damasio, qui a publié ce livre que vous avez mentionné, L'erreur de Descartes, la raison des émotions, montre qu'il y a une rationalité de l'émotion. Parce que l'émotion est le levier d'Archimède de nos décisions les plus banales. Et il montre à travers une série de cas cliniques que pour prendre une décision aussi banale soit-elle, aussi simple que choisir entre la confiture de fraises et confiture d'abricot au petit déjeuner, eh bien, il nous faut une émotion. Et donc, sans émotion, on ne peut pas prendre de décision. Et donc, ça renverse complètement notre perspective, c'est-à-dire que l'émotion est un radar de pertinence. Et c'est pour ça que Ulysse, qui veut rentrer à Ithaque, il est guidé, il est mu par son émotion, mais qui est juste, puisqu'elle est raisonnable, elle lui montre la voie.
Mais quand l'émotion s'impose en premier, elle peut conduire à prendre de mauvaises décisions. Vous racontez que vous avez assisté à un exercice de sauvetage en montagne, dans les hauteurs de Saint-Gervais, et vous avez tiré une leçon de ce que l'instructeur a dit à ses aspirants guides, j'imagine, ou à ses stagiaires, qui s'étaient précipités sur la personne censée être blessée, sans trop réfléchir. Il leur a dit « Ne vous précipitez pas vers l'action, il faut penser d'abord, agir c'est déjà conclure ».
Oui, d'ailleurs, René Char, dans ses feuillets d'hypnose, c'est une autre phrase du même genre. Il parlait de agir en primitif et penser en stratège. Et c'est vrai que l'émotion...
C'est quantique, ça.
Oui. L'émotion peut obscurcir la raison, c'est vrai, mais elle doit être régulée par l'intelligence. Il ne faut pas un excès, parce qu'alors on tombe dans l'oubris. Mais effectivement, il faut la prendre en compte dans la décision.
Et vous citez aussi un exemple qui renvoie encore à l'alpinisme, celui de Reinhold Messner, qui en 1978 a gravi l'Everest sans oxygène pour la première fois. Et vous dites qu'il a montré là le courage d'être prudent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été courageux et prudent en même temps?
Alors, Messner, c'est un immense alpiniste. Il me semble que c'est le premier à avoir gravi les sommets de plus de 8000 mètres.
14, oui.
Oui, c'est ça, les 14 semaines plus de 8000 mètres. Et en fait, il a été prudent dans ses moyens. Il est d'ailleurs monté au sommet de l'Everest sans oxygène, ce qui semblait impossible.
On lui disait que c'était impossible, les médecins.
Les médecins lui disaient, mais vous allez mourir, ou en tout cas avoir des dommages irrécupérables, inguérissables. Et Messner a quand même été prudent dans ses moyens, puisqu'il est monté en avion à la hauteur visée. Et il a retiré son masque à oxygène, il a vu que rien ne se passait, et que donc l'exploit était à sa portée, l'exploit était faisable. Donc il n'y est pas allé de manière téméraire. Disons que pour lui, l'alpinisme était une écriture. Il s'agit toujours de trouver la ligne vers le sommet, et il a été comme ça pionnier dans son domaine. En fait, je l'opposerai à Maurice Wilson, qui est un autre alpiniste, qui, dans les années 30, voulait aussi gravir l'Everest, en se crachant en avion à la base de la montagne, et puis en la gravissant, mais sans avoir jamais mis un pied en montagne, avec des minces habits de ville, tout seul, à jeun, de manière complètement folle. Et d'ailleurs, il est mort, et on a retrouvé son corps l'année suivante, et dans son journal, les derniers mots était « journée splendide, je suis très confiant ». Ça montre toute la témérité, en fait. Et d'ailleurs, le courage, Aristote le définit comme une excellence, un pôle entre la témérité et la lâcheté, entre l'excès et le défaut.
Et la confiance qui peut être à la racine de bien des comportements imprudents. Vous connaissez cette phrase du « cave se rebiffe », le film de Gilles Grangier de 1961, Jean Gabin joue le rôle d'un monsieur à la retraite qui a longtemps fabriqué de la fausse monnaie, qui reprend du service, et qui dit « Depuis Adam se faisant retirer une côte jusqu'à Napoléon attendant Grouchy, toutes les grandes aventures humaines qui ont foiré étaient basées sur la confiance. »
Oui, mais ne pas essayer, condamne l'homme à l'immobilité. Mais c'est vrai que le discernement, c'est la chose la plus difficile. Il s'agit de voir où sont les limites. Et on est toujours tenté, après une querelle de succès, d'aller trop loin. Jusqu'où peut-on aller trop loin, demandez-vous.
Vous parlez dans votre livre, Catherine Van Hoffelen, du syndrome de Vasa. C'est quoi le syndrome de Vasa?
Alors oui, Vasa, c'est ce vaisseau construit par la Suède qui voulait en fait s'offrir le plus grand navire de guerre au
monde.
C'était
il y a longtemps.
C'était, oui, il me semble que c'était au XVIIe siècle. Et en fait, ils avaient mis des moyens considérables, ils avaient fait appel aux meilleurs artisans, etc. Mais le Vasa, lorsqu'il s'était lancé depuis les quais, après 3 ans de gros travail, de labeur, eh bien, a coulé à pic. Et on s'est rendu compte qu'il avait été mal construit dans son ensemble, avec une disproportion des poids entre la partie haute et la partie basse, ce qui fait que il a coulé. Donc, et c'est en fait tout le problème, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui supervise, il faut quelqu'un qui régisse, qui unisse les choses ensemble. Et on peut avoir une très belle, comment dire, le tout est supérieur aux parties. C'est comme un tableau de Monet, c'est-à-dire que les points qui le constituent sont inférieurs au sujet du tableau, qui sont les coquelicots, vous voyez.
Vous dites quelque part, nous avons gagné, vous parlez de la période contemporaine, nous avons gagné en liberté individuelle, mais perdu en assurance cosmique. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'idée de progrès, dans laquelle la science et la technologie ont été enchâssées pendant plusieurs siècles, n'est plus aussi vivace aujourd'hui qu'elle a pu l'être ?
C'est-à-dire que quand on est passé du Moyen-Âge où finalement le destin humain était donné par une direction qui était la religion et que les lumières sont apparues, eh bien il y a une foi en l'homme qui était immense. Et ça a donné le positivisme quelque part et la croyance que le progrès allait apporter toutes les solutions aux hommes. Et en fait, évidemment que toutes ces illusions se sont brisées au XXe siècle, et on a perdu foi en l'homme à ce moment-là. C'est tout le sens du désenchantement. Ce que je veux dire, c'est que l'homme moderne aujourd'hui doit, il n'a pas renoncé à ce positivisme. Nous vivons toujours dans une société qui est dominée par la foi dans le progrès, tout de même. Même si cette foi, elle est en train d'être de prendre l'eau.
Il y a quand même de grandes différences. Le 8 mai 1842, vous savez, il y a eu en France la première grande catastrophe ferroviaire. L'accident s'est produit à Meudon sur la ligne Paris-Versailles. Le train a déraillé. Il y a eu officiellement 55 morts, sans doute beaucoup plus, dont notamment l'explorateur Jules Dumont-Durville et toute sa famille, et plus de 150 blessés. Il y a évidemment des débats dans la presse. Est-ce qu'il faut continuer le chemin de fer? Ça veut dire plus vite qu'un cheval, ça crée des accidents comme celui-là. Mais assez rapidement, les journaux s'emparent du sujet. Et par exemple, le journal de Rouen écrit « Le malheur de Meudon, quelque intense et considérable qu'il soit, ne peut et ne doit pas dégoûter des chemins de fer. Il fera prendre plus de précautions et l'on déduira d'importants enseignements des circonstances même de la catastrophe. » Et c'est Lamartine, qui était député à l'époque, qui va clore l'affaire le 11 mai 1842, donc 3 jours seulement après, en disant « plaignons-les », il parle des victimes, « plaignons-nous, mais marchons ». Autrement dit, c'est pas un accident qui va arrêter le cours de l'histoire vers le progrès. Aujourd'hui, de tels discours seraient sans doute impossibles, en tout cas ne garantiraient pas la réélection du député qui les tiendrait.
Oui, c'est en fait le progrès, c'est toujours une médaille avec un revers et un avers. C'est-à-dire qu'on invente le train, ça donne le déraillement. On invente l'électricité, ça donne l'électrocution. On invente le navire, ça donne le naufrage. Et dans le rayon X, eh bien, il y a Hiroshima contenu, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, le risque, les inventions avancent à une telle vitesse que nous ne pouvons même plus anticiper les conséquences. Et c'est pour ça que Ulrich Beck, le penseur allemand, avait parlé de la société du risque. Il avait publié ce livre la même année que l'explosion de Tchernobyl, en 1986. Et il a dit que, finalement, le risque était le passager clandestin de la science. Et qu'en fait, le progrès aujourd'hui, enfin les innovations, c'était la course permettant de régler les problèmes nés des dernières innovations. Et donc, on était constamment en train d'essayer de rattraper les possibles catastrophes contenues dans les dernières innovations.
Mais bien avant Ulrich Beck, Paul Valéry disait « L'homme sait en général ce qu'il fait, mais ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait ». Oui. Autrement dit, on ne peut pas prédire l'usage qui sera fait innovations, des découvertes, des inventions qu'on peut faire. Et Hugo, ça a toujours été vrai.
Hugo l'avait dit aussi, hein, le progrès, c'est une roue à double engrenage qui élève tout en écrasant quelqu'un. Il y a toujours comme ça un revers dans le progrès. Mais aujourd'hui, on a changé quand même de dimension parce que l'homme a acquis la capacité de se détruire. Et c'est tout le sens du principe responsabilité de Hans Jonas, hein, qui propose une éthique pour justement répondre à la société du risque.
Mais on quantifie pas de la même façon les risques qui sont liés à nos actions que les risques qui sont liés à nos inactions. C'est-à-dire, arrêter de faire quelque chose, ça comporte des risques. Mais on est moins conscient de ces risques que le fait de continuer à faire quelque chose.
Oui, et pourtant, il y a une sérendipité dans le fait d'agir. C'est-à-dire que, effectivement, Magellan, quand il part en 1519 de Séville, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Hein, et il part quand même. S'il avait eu une commission de sécurité maritime pour lui dire voilà, votre navire n'est pas aux normes, etc., il faut prendre toutes les précautions, et bien il ne serait pas parti.
Comment est-ce que vous pensez la question suivante ? La science aujourd'hui produit des connaissances qu'on appelle scientifiques, qui bénéficient d'une objectivité particulière, mais nous avons compris que la science produit aussi de l'incertitude, c'est-à-dire qu'elle ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités qu'elle nous donne. La physique nucléaire vous dit comment faire un réacteur nucléaire ou une bombe atomique, elle ne dit pas si vous devez le faire ou la faire. Pareil pour les OGM, pareil pour la 5G, pareil pour l'IA, pareil pour toutes les technologies dont on parle aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on fait pour décider de ce qu'on va faire parmi toutes les possibilités que la science nous donne ? Est-ce qu'il y a des débats ? Est-ce qu'on donne la parole aux experts ? Est-ce que les citoyens doivent décider du type de compagnonnage qu'ils souhaitent avoir avec les nouvelles technologies ? Comment est-ce que on peut trouver le moyen de décider d'une façon telle qu'à la fin, même ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision prise, considèrent qu'elle a été prise selon des normes qui la rendent acceptable ?
Mais c'est très difficile parce que vous me posez là une question difficile. En fait, la science, ce que la science peut faire, elle le fera. De toute façon, elle triomphera toujours. Un exemple, c'est Galilée. C'est-à-dire qu'il est condamné pour avoir dit que ce n'était pas les autres planètes qui tournaient autour de la Terre. Mais finalement, sa pensée a été reconnue. Donc la science triomphe toujours, le précautionnisme, les mesures peuvent constituer un frein, mais pas un blocage.
Enfin, l'Inquisition n'était pas précautionneuse avec Galilée, c'était pas l'argument.
Non, bien sûr, mais il contrevenait quand même à l'Église. Et je pense à Darwin, par exemple, à qui une femme de la haute société disait « Mon Dieu, s'il est vrai que l'homme descend du singe, prions pour que ça ne se sache pas ». C'était une phrase qui ressemblait à ça. Mais en fait, la théorie de Darwin, aujourd'hui, est quand même reconnue de façon générale.
Donc, ma question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait nous permet de faire ?
Eh bien, c'est toute la sagesse de l'homme prudent de savoir comment utiliser les ressources, les découvertes, les dernières innovations, les dernières connaissances. Mais la science vise à un accroissement de la connaissance, de toute façon. L'homme fouille, c'est dans sa nature, c'est son ADN quelque part. Donc, il est lancé dans cette entreprise. Et ensuite, savoir que faire de ces connaissances, eh bien, c'est la tâche de la société. Hein, c'est la tâche de... Et là encore, le Phronimos ne s'occupe pas de science, il s'occupe de ce qui est concret, de ce qui est ce qui appartient au monde des hommes.
Hein, donc bah, la technologie, c'est assez concret, c'est une retombée, comme on dit, de la science, qui est concrète et pour laquelle il faut prendre des décisions, justement.
Qu'est-ce qui est utile ?
Par exemple, quelles sont les décisions qu'on accepte de déléguer à des machines, à l'IA ? Est-ce que on accepte qu'elle décide pour nous ou est-ce que on veut garder la main et si oui, comment ?
Oui, mais alors ça, c'est vrai qu'en fait aujourd'hui, on a tendance à déléguer la décision à la machine, tout simplement parce qu'on vit dans un monde où règne l'idée du risque zéro, hein, et que l'homme, la décision de l'homme nous fait peur car on la trouve arbitraire, et donc la tentation devient grande à ce moment-là de se dire, ben, l'algorithme va prendre des décisions qui sont.
Il a des données qu'on n'a pas, il peut les analyser, donc décider mieux que nous.
Ben, c'est tout le sens de la décision mécanisée, hein, qui se prend dans des arcanes insondables que l'entendement humain, qui ne sont pas à la portée de l'humain, en fait. Mais est-ce que la machine sait mieux que nous ce qui est bon pour nous? En fait, on ne se pose souvent pas la question. Et c'est pour ça qu'elle ressemble très fort au maître de vérité de la Grèce archaïque, à qui on s'en remettait de manière...
Sorte d'oracle.
Aveugle, voilà, des sortes d'oracles qui auraient une forme de sagesse supérieure. Et aujourd'hui, on donne à la machine cette prérogative.
Catherine Van Fallen, dans votre livre qui s'intitule « Risquer la prudence », vous dites que le précautionnisme, que vous ne confondez pas avec la phronésis, est un moignon de phronésis. Donc qu'est-ce qui manque au précautionnisme pour devenir la phronésis ?
Ben, c'est-à-dire que le précautionnisme aujourd'hui nous enjoint à l'immobilisme. C'est toujours cette injonction à voir le pire scénario dans les possibilités offertes devant nous. C'est dans le doute abstiens-toi et dans le doute envisage le pire. Hein, c'est d'ailleurs ce que dit Hans Jonas. Mais la phronésie justement invite à voir, à inventer, à trouver les solutions en soi pour discerner le meilleur chemin à prendre et savoir agir. Donc c'est pour ça que le livre s'appelle « Risquer la prudence », qui est un oxymore pour nous, hein, puisque nous associons la prudence à cette vertu très ennuyeuse et très tiède. Mais pour un grec ancien, elle est un pléonasme, elle est une tautologie. Parce que le phronimos, il est justement rompu à l'exercice de l'incertitude et à la prise de risque.
Mais le principe de précaution en France, il est dans la Constitution depuis le 1er mars 2005. Il est souvent présenté comme un principe d'immobilisme, en effet, mais en réalité, quand on le lit, c'est plutôt un principe d'action. Je donne cette définition. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Fin de citation. Mais parfois, ce principe de précaution qui incite à mettre en place une procédure essentiellement scientifique est perçu comme un principe visant à calmer, à réduire non pas le danger, mais l'anxiété. Or, les mesures qu'on prend pour réduire un danger ne sont pas les mêmes que celles qu'on prend pour réduire l'anxiété. En tout cas, pas toujours.
Oui, en fait, le principe de précaution semble louable et semble frapper au coin du bon sens, mais dans son application, on voit que la prudence telle qu'elle est exercée aujourd'hui, elle s'incarne sous la forme d'une multiplication de dispositifs pour nous prémunir de tous les risques, hein, caméras, portiques de sécurité, alarmes en tout genre, etc. Et puis, on a vu aussi l'installation d'une sorte de mathématique du risque avec des niveaux de couleurs, des codes, des chiffres, etc. pour nous faire entrevoir le risque partout où il pouvait se nicher. Et des Nutri-Score aux cartes du ministère des Affaires étrangères français qui a colorié toute la carte de l'Afrique en rouge ou en orange quasiment. Donc en fait, nous vivons dans une conscience suraiguë de tous les risques qui nous environnent. Et paradoxalement, en fait, ces dispositifs étaient censés nous apaiser, censés nous dire, ben voilà, les risques sont écartés, repoussés. Mais en fait, ils nous les rappellent constamment.
Ils deviennent proliférants, on les voit partout.
On les voit partout, on voit le risque partout aujourd'hui. Et c'est ça qui est en train de, je pense, de tuer le goût de l'aventure, le goût de la découverte.
Mais peut-être connaissez-vous le nom d'un sociologue anglais, David Fleming, qui a énoncé à la fin du XXe siècle un principe inverse d'évaluation des risques. Il explique que pour qu'un risque soit considéré comme un risque, il faut qu'on soit capable d'imaginer des mesures que nous pourrions prendre qui permettraient de le réduire. Autrement dit, pour qu'un risque soit un risque, il faut qu'on pense pouvoir le réduire. Sinon, c'est une donnée de la condition humaine. Il relève de la fatalité, il n'y a rien à faire contre. Par exemple, les accidents de la route ont en France été considérés comme une sorte de fatalité, le prix à payer pour pouvoir se, 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 se déplacer librement à grande vitesse, jusqu'au jour où quelqu'un a dit c'est scandaleux. Et là, on a pris des mesures pour réduire ce risque. Les ronds-points, la ceinture de sécurité, etc. Et donc, comme tous les risques qu'on a en tête peuvent être réduits si on envisage telle ou telle mesure, bien tout devient risqué finalement.
Mais c'est-à-dire que, en fait, l'exigence aujourd'hui, elle est d'un monde sans danger. C'est ça qui est demandé à l'État, c'est comment dire, un monde où tous les risques seraient supprimés, évacués. Ce serait comme un marin qui voudrait naviguer par beau temps sur une mer absolument lisse et parfaite. Mais le Phronimos, lui, est capable d'affronter les dangers, les risques lorsqu'ils surgissent.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la fréquentation des risques, quand elle est décidée, est une sorte d'aphrodisiaque? Ça accroît le sentiment d'être vivant.
Mais en tout cas, ça accroît certainement notre sentiment d'être vivant, mais ça aussi, ça accroît notre humanité. Dans le sens où on apprend à se connaître soi-même, on fait l'expérience du monde, et j'en pense à Ulysse qui, lui, n'arrête pas de se tromper, d'errer, de faire naufrage, de connaître, mais aussi d'exercer sa curiosité. Et cette curiosité devient fertile parce qu'ensuite il sédimente, il condense son regard qui devient alors flair, expérience, sagesse, et il revient à Ithaque après 20 ans, mais avec une humanité et une identité plus affirmée que quand il part.
Votre référence, c'est la sagesse antique, d'ailleurs, c'est dans le sous-titre de votre livre, une pratique de la sagesse antique. Mais Aristote, s'y revenait dans notre monde, avec toute la technologie que vous décrivez dans votre ouvrage, est-ce qu'il aurait les mêmes guides pour prendre des décisions? Vous dites quelque part, là où l'écran s'allume, la phronésie se recule. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que Aristote, s'il revenait parmi nous, aboutirait à la même conclusion?
En fait, le monde a évidemment changé énormément dans des proportions complètement folles par rapport au monde d'Aristote. Mais je ne crois pas que l'homme ait fondamentalement changé. Je ne crois pas tellement à la perfectibilité de l'homme. Je crois qu'en fait, nous sommes les petits-enfants des hommes archaïques dont nous héritons de beaucoup de facultés enfouies en nous, que nous avons peut-être oblitéré, ignoré, mais c'est une humanité qu'il s'agit de retrouver, que cette phronésie se propose de refréquenter, de ramener à l'air libre. Et je pense par exemple à un autre aspect de la phronésie que j'ai pas évoqué, qui est importante, qui est la lecture des signes, ce que fait en fait le chasseur-cueilleur. Et là je remonte bien plus loin qu'Aristote, je fais quelques bonds dans le temps, mais le chasseur-cueilleur arrive à discerner dans la forêt du réel, eh bien, les traces de la proie qui est passée par là. C'est une empreinte dans la boue, c'est une touffe de poils dans les arbres. Et nous faisons la même chose. C'est-à-dire que le médecin, devant son patient, examine les traces qui sont les symptômes, en l'occurrence. Mais l'historien repère dans la trame de l'histoire, il reconstitue la trame de l'histoire dans dans les dossiers classés, dans les fossiles, dans les objets retrouvés. Pareil pour le psychanalyste. Ou le garagiste, ou le complotiste, ou l'amant jaloux. Enfin, tous ceux-là sont des experts en lecture de traces, et nous avons hérité de cette faculté de l'homme archaïque. Voilà un exemple qui montre que l'homme ne change pas.
Il y a quelques mois, Catherine Van Oefelen a été publié un livre intitulé « Méditation sur le risque » par les éditions Philosophie Magazine, dans lequel on trouve des témoignages de personnalités qui disent le rapport qu'elles ont eu tout au long de leur vie avec la notion même de risque. Et parmi elles, on trouve Claude Alfandéry, qui était un grand économiste et qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été résistant, très jeune, à 16 ans. Et il en parle et dit, dans la résistance, pour moi, le risque n'existait presque pas. C'est-à-dire qu'il avait une conscience tellement aiguë de ce qu'il devait faire, que d'une certaine façon, il n'avait pas de choix à faire. Et le risque était donc, en quelque sorte, évacué de sa conscience. Est-ce que vous le comprenez ?
Oui, c'est d'ailleurs toute la noblesse d'âme du phronimos. Aristote dit que la magnanimité couronne la phronésis de Magnus Grand. En fait, il y a une grandeur d'âme chez le phronimos qu'on retrouve dans la justesse de combat de Gaulle, par exemple, hein, qui part à Londres et qui fait ce saut dans l'inconnu total. Mais la suite de l'histoire lui donne raison. Hein, et on voit que ce n'est pas Pétain qui est un parangon de prudence, même s'il semble l'être au départ, puisqu'il vise à préserver les vies humaines françaises, mais en fait, De Gaulle a mille fois raison, et donc l'histoire se charge de le montrer.
Et parmi les autres témoignages, il y a celui de Laurence de Villers, philosophe, qui a beaucoup écrit sur la mer, ça doit vous intéresser, qui dit ceci: le risque, c'est aller au plus près de ce qui est imposé, de ce qui ne se négocie pas, et lui rire au nez. Fin de citation. Donc le risque, il faut aller le chercher, il faut s'en amuser, il faut le titiller.
Il faut le titiller. Effectivement, il y a une épistémologie du risque parce qu'en fait, on découvre des facettes de soi insoupçonnées. Quand on part en montagne, eh bien, on côtoie comme ça des forces qui nous font découvrir peut-être une forme de finitude aussi. Et c'est ça la phronésis aussi, c'est que il faut accepter avec gaieté nos limites. Hein, nous ne sommes pas des dieux, nous avons besoin de nous tenir dans une position un peu précaire, qui est celle de l'homme, hein, qui doit faire face à la vieillesse, à la maladie, à la finitude, etc. Mais il y a encore des voies de traverse, hein, qui permettent de découvrir des facettes et justement de trouver cet aphrodisiaque, cette dimension aphrodisiaque du risque.
Alors, je l'ai dit en commençant cette émission, Catherine Van Oefelen, lorsque vous étiez adolescente, vous viviez dans une métaphysique qui manquait de repères, vous n'aviez pas de point d'Archimède pour prendre des décisions. Vous avez découvert la phronésis, vous dites qu'elle vous a sauvé, sans être indiscret, comment ?
Régis Debray a cette phrase que j'aime bien. Salopard ou sauveur, ça se joue au dé entre 18 et 25 ans. Et c'est vrai que le jeune est dans une position assez malléable souvent. Hein, il est en quête, hein, il répond je ne sais pas à toutes les questions qu'on lui pose, et il lui faut des guides, il lui faut des héros, il lui faut des repères. Et toute la vie, ben, ça consiste à peut-être se trouver les points de repère, à naviguer dans une constellation qu'on va construire. Et disons que la phronésis, eh bien, j'ai voulu lui rendre hommage parce qu'elle m'a accompagnée. Il a fallu une grande sédimentation, à la fois intellectuelle et d'expérience, hein, pour arriver à embrasser le thème. Et puis ma démarche, elle est un peu touche-à-tout, parce qu'elle est à la fois historique, littéraire, philosophique, etc. Mais je pense que ça s'accorde assez bien avec mon objet, parce que c'est lui-même un objet très très chatoyant. Et donc il touche à plein de domaines. Hein.
Mais ça veut dire que c'est une façon de ne pas choisir, alors de faire vivre... Par exemple, vous dites que quand vous avez choisi une discipline pour vos études, en fait, vous en avez choisi deux, parce que vous n'arriviez pas à trancher.
Oui, ben j'ai fait le choix du cœur et le choix de la raison, mais quelque part, c'est ce qui...
En l'occurrence, c'était quoi ?
C'était...
Le cœur, c'est quoi ?
C'était la littérature, hein, qui était ma passion première, et l'autre, non, c'était les études européennes, qui sont en fait des études de géopolitique, et ensuite des études de conflit, parce que la guerre m'a intéressée, et je rappelle qu'Athéna est à la fois la déesse de la prudence, de la phronésis, mais aussi de la guerre. Et elle personnifie ce lien entre les deux notions. En fait, la thématique du risque et de la prudence m'ont toujours passionnée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je rends hommage à cette notion-là qui me semble cruciale et, je pense, fait défaut peut-être dans le spectre de ce qui est proposé.
Et vous parlez de la jeunesse, mais est-ce que vous avez les moyens, avec ce concept de phronésis, de comprendre d'où vient que c'est pendant l'adolescence qu'on a le plus de comportements à risque? Est-ce qu'il s'agit d'explorer les limites ou, au contraire, est-ce qu'il s'agit de croire qu'il n'y en a pas?
Oui, et d'ailleurs, Aristote dit que la jeunesse est rarement phronésique. Les jeunes personnes et les riches sont rarement phronésiques parce que la jeunesse est bouillante. Hein, on a toujours Antigone comme référent. Et Et elle veut militer le point levé, elle veut initier des révolutions, c'est tout le sens de la jeunesse. En fait, Pascal a une phrase sur justement le fait de se placer à juste distance d'un tableau, hein, ni trop près, ni trop loin, pour le voir correctement. Et c'est ce point de vue de Sirius, en fait, qui serait le point de vue phronésique, c'est-à-dire un point de vue où on a une juste considération des choses, un discernement avisé, et qui nous permette de nous mouvoir dans ce réel incertain.
Votre livre est apparu il y a quelques semaines, je crois, quelques mois même. Comment est-ce qu'il est reçu? Est-ce que des ingénieurs l'ont lu et vous ont fait part de leurs remarques? Est-ce que ça peut servir de guide pour eux? Est-ce que ça comble une sorte de manque dans la façon de concevoir le risque aujourd'hui, à une époque où tout le monde en parle?
Il a eu quelques faveurs, ce livre, parce que je pense qu'il répond en effet à un vide actuel, et on a besoin de grilles d'interprétation du monde qui semble livré à une forme d'irrationnel ou de folie. Et la phronésie vient peut-être comprendre le monde dans lequel nous vivons, mais aussi nous offrir une conduite dans l'existence. C'est pour ça, et j'espère que ce concept aidera certaines personnes comme il a pu m'aider.
Mais c'est un mot qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, phronésis.
Non, on ne l'emploie plus. Il y a comme ça des mots qui ont complètement été oubliés.
Ou alors mal traduits, en fait.
Il a été mal traduit, oui, mais il y a eu d'autres termes qui ont été, qui ont changé de sens. Hein. La sécurité est un autre exemple, parce que la sécurité, avant, c'était une sérénité d'âme pour les écoles de l'ataraxie que sont le stoïcisme, l'épicurisme, le scepticisme. Eh bien, ces écoles-là visaient une forme de paix intérieure. C'était ça le sens de la sécurité. Pour nous, c'est un objectif extérieur. Il faudrait vouloir un monde sans risque, et c'est impossible.
Merci Catherine Van Oefelen d'être venue à la conversation scientifique pour nous parler de philosophie, mais pas que. Je recommande la lecture de votre livre « Risquer la prudence, une pratique de la sagesse antique » qui a été publié par Gallimard dans la collection Connaissance. Merci à vous, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique François Saint-Jour et à la réalisation Luc Jean-Reynaud.